Alléluia, vous allez bien? On va partager la parole de Dieu ensemble. Je vous invite à prier avec moi pour ce temps. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, qu'elle puisse encore produire son fruit dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu veux encore parler ce matin dans nos vies. Tu veux encore nous attirer à toi et je te prie Seigneur de guider encore ce qui va être partagé ce matin. Amen. Alors pour introduire ce message, je vous ai choisi deux citations. Ce n'est pas des citations de la Bible, hein, vous verrez tout de suite. Alors, première citation, « Je ne sais si je crois en Dieu ou au hasard, et qu'est-ce que le hasard sinon le Dieu des incroyants ?» Ça, c'est François-Henri Désérable, c'est un auteur contemporain. Et une deuxième citation, « Le hasard, mais c'est Dieu qui garde l'anonymat. » Ça, c'est Édouard Pailleron. C'est plus ancien, on dirait qu'il lui répond, mais c'est dans une autre époque. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui croient au hasard, à la chance, à la malchance, au destin? Non, il n'y a personne, bon. Ah, si, il y a des personnes qui croient, d'accord. Croire au hasard ou à la chance, en fait, n'est pas compatible avec la foi en un Dieu tout-puissant. Si je laisse une place à cette croyance, même toute petite, me dire c'est un coup de chance, ou c'est un coup de malchance, c'est le destin. Alors je suis en train de dire qu'il y a quelque chose de plus grand que Dieu. Il y a quelque chose, il y a une force qui dépasse Dieu. Je suis en train de penser que Dieu n'est pas souverain en fait, qu'il y a quelque chose de plus fort que lui. Et en ayant cette croyance-là, en disant, bah oui, la chance existe, la malchance existe, je ne peux pas avoir la paix. C'est impossible, puisqu'il y a quelque chose qui dépasse Dieu. Je ne pourrais pas vraiment lui faire confiance à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Même si certaines choses dans notre vie ne correspondent pas à la volonté première de Dieu, oui, parce que Dieu permet, il nous laisse notre libre arbitre, il laisse les personnes choisir, même s'il laisse cette chose-là, même si ce n'est pas sa volonté première, Dieu est toujours au contrôle. Il n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Il n'est jamais à court de ressources dans une situation. Déjà avant, il l'a pensé. Déjà avant, il a la solution. Donc Dieu est toujours souverain. Et rien n'est au-dessus de lui. Rien ne lui échappe, rien ne le dépasse, Dieu ne perd jamais le contrôle. Il faut, ça c'est une base de notre foi. Si on commence à croire le contraire, ça va être compliqué. C'est un fondement de notre foi. Dieu est souverain sur toute chose. Je vous ai mis une autre citation. Dieu ne joue pas au dé. Ça c'est Albert Einstein, vous connaissez, hein, grand physicien. Dieu ne joue pas au dé, qu'est-ce que ça veut dire? Bah Dieu, il ne fait pas confiance au hasard ou à la chance. Dieu, il est sage, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Et comme le nous dit l'Épître aux Romains, il nous suffit de regarder la création, de regarder autour de nous, pour se rendre compte que rien n'a été laissé au hasard, en fait. Si vous regardez la Terre, le Soleil, la distance entre la Terre et le Soleil, elle est précise, parce que si le Soleil était plus près, il ferait trop chaud, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. S'il était trop loin, il y aurait trop de froid, il n'y aurait pas de vie non plus. Vous savez que sur la Terre, il y a un champ magnétique aussi qui nous protège des radiations. Si ce champ magnétique était un peu plus élevé, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. S'il était moins élevé, il n'y en aurait pas non plus. Donc Dieu, il a tout réglé, la distance des planètes. Il a réglé tout ce qui est attractivité au sol, la gravité, pardon, toutes ces lois qui dirigent ce monde, cet univers a été décidé par Dieu, a été permis pour permettre la vie, pour permettre que nous soyons là aujourd'hui. On peut prendre aussi l'exemple de tout ce qui est être vivant sur la terre. Un poirier donne des poires, un pommier donne des pommes. Vous regardez, il y a une graine et vous dites, dans cette graine, il y a déjà tout ça de prévu. Ce n'est pas la graine qui a choisi. Et Dieu a tout pensé dans sa sagesse. Chaque chose sur cette terre, chaque être vivant a son rôle à jouer, sait ce qu'il doit faire. les animaux, par exemple. Je vous ai pris l'exemple des abeilles. C'est merveilleux, les abeilles. Vous avez déjà regardé les alvéoles des abeilles ? Elles ne sont pas rondes, elles ne sont pas carrées, elles sont hexagonales. Pourquoi elles sont hexagonales ? Parce que c'est la forme la plus appropriée, la forme optimisée. Alors, est-ce que c'est un jour, il y a une abeille qui a dit « Ah ouais, on va faire comme ça, là, ça sera mieux, les gars. » Et après, il a laissé la notice pour les autres. Non. Ça a été programmé par Dieu. Dieu a mis ça dans l'abeille pour qu'elle sache comment construire ses alvéoles de façon optimale. Ça, c'est juste un petit exemple, mais il y en a tant. J'avais lu une fois des scientifiques qui avaient fait une expérience avec un oiseau qui fait son nid en forme de pipe pour être protégé des serpents. Et ils avaient pris un couple de ces oiseaux et l'avaient mis en cage sur 5 générations pour les empêcher de faire ce nid dans cette forme-là. Et au bout de la 6e génération, ils ont laissé partir l'oiseau. Et qu'est-ce qu'a fait l'oiseau ? Il a refait un nid en forme de pipe. Pourquoi ? Parce que c'était là. C'est imprimé par Dieu. Tout a été prévu par Dieu. Ce n'est pas un hasard, c'est une preuve de la sagesse de Dieu. Il a tout réglé. Rien ne lui échappe. Il est dit dans la parole qu'un cheveu qui tombe de nos têtes, il le sait. Il n'y a pas d'histoire de chance, il n'y a pas d'histoire de malchance, de destin. Dieu sait, Dieu connaît. Alors c'est très bien tout ça. La création, Dieu l'a réglé. Mais l'homme dans tout ça, quelle est notre place ? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre ? Bah pareil, Dieu avait créé toute chose et tout prévu pour l'homme. À la base, Pierre nous en avait parlé il y a 2 semaines, hein, dans le jardin d'Éden, l'homme avait reçu une mission, représenter Dieu sur cette terre, prendre soin de la création. Il est mis dans la Bible de dominer, mais en fait, c'est plus dans le sens de gérer, d'être un gestionnaire de la terre. Et puis de vivre une relation profonde avec son Créateur. Mais au lieu de rester dans cette relation, l'être humain a choisi de croire quelqu'un d'autre, d'accepter les mensonges de l'ennemi, du diable. Du coup, la relation avec son Créateur a été brisée. Et depuis ce moment-là, on le voit tous les jours, on le voit autour de nous, on le voit depuis le début de l'histoire de l'humanité, la vie de l'homme n'a plus de sens. L'homme va chercher un sens à sa vie. Et nous le voyons aujourd'hui encore dans notre génération, on rejette Dieu, on ne veut plus Dieu dans notre société. Les jeunes cherchent le sens de leur vie. Il n'y a plus de sens à la vie. Alors bien sûr, certains vont vouloir vivre pour les richesses, vivre pour la reconnaissance, vivre pour des causes nobles aussi, pour élever ses enfants, pour avoir une belle famille, pour faire du bien autour de soi. Mais il y a toujours un vide au fond du cœur. Vous savez, moi, avant de connaître Dieu, mon but, c'était de fonder une famille, d'avoir du bon temps, d'avoir un bon travail. Et des fois, il y avait cette question qui venait dans mon cœur qui disait mais à quoi bon ? À quoi bon ? Parce que tu vas tout laisser ici, tu vas mourir un jour, il n'y aura plus rien. Et vous savez, on essaye d'évacuer un peu cette question parce qu'elle fait peur. C'est comme si on était au-dessus d'un abîme, puis on regarde, mais c'est quoi le sens de ma vie, en fait ? Où je vais, quoi ? Et on comprend la dépression d'où elle peut venir avec cette pensée, on n'est plus relié au Créateur. Toutes les motivations qu'on peut avoir sur cette terre, en fait, elles sont fragiles. Il suffit d'un échec, d'une trahison, d'un malheur pour que tout s'écroule et notre vie n'a plus de sens. Sans Dieu, la vie est superficielle, tournée uniquement vers les choses de ce monde. Et les choses qui sont visibles, vous savez, sont passagères. Elles vont toutes être amenées à disparaître. Sans vie, la vie n'a pas de sens. J'avais l'exemple d'un clavier. Vous savez, un clavier d'ordinateur. C'est super utile, un clavier d'ordinateur. Mais s'il n'est pas branché à l'ordinateur, qu'est-ce que vous en faites ? Vous pouvez faire une étagère avec, servir le café dessus. Encore, ça ne va pas être très pratique. Ça ne sert à rien. Un guépard qu'on laisse dans une cage de 2 mètres carrés, il va vivre, on va le nourrir, tout ça, mais il n'est pas fait pour ça, le guépard, il est fait pour courir. Il a reçu des muscles, il a reçu une ossature pour aller vite, pour courir. L'homme, c'est pareil. Il n'est pas fait pour vivre seulement pour les choses de ce monde. Il y a plus grand pour l'homme. Dieu a un plan plus grand pour l'homme. Et Dieu, dans sa grâce, n'a pas abandonné son plan pour l'homme. Il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, non seulement pour que nous soyons sauvés après notre mort, mais aussi pour que dès maintenant, nous pouvons être réconciliés avec notre Créateur, avec Dieu le Père. Jésus est venu donc pour que nous retrouvions notre vraie place, dès maintenant, notre vraie identité et notre vraie mission. Grâce à Jésus, nous pouvons de nouveau vivre en relation avec notre Créateur, comme je l'ai dit. Nous pouvons découvrir ce qu'il a préparé spécialement pour chacun d'entre nous. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, il sait où il va, mais il sait aussi à quoi il est appelé sur cette terre. Bien sûr, nous savons que nous devons aimer notre prochain, nous devons servir Dieu, nous devons partager l'évangile, mais Dieu a des choses spécifiques pour chacun d'entre nous. Rien dans notre vie n'est laissé au hasard, ni notre naissance, ni notre famille, ni le pays où nous sommes, ni le quartier où nous sommes, ni même notre parcours, le parcours qu'on a eu. Tout ça, c'est dans un but bien précis. Ce n'est pas du hasard. Dieu a tout prévu. Dieu a un plan spécifique pour chacun de nous, chacun de vous. Il a préparé des œuvres à l'avance. Je n'ai pas mis le verset. Il a préparé des œuvres à l'avance. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre désir, notre volonté doit donc être de se préparer et de vivre pour l'appel de Dieu. Nous avons plus à vivre. Nous avons à vivre pour des choses qui vont demeurer dans l'éternité, qui ne vont pas disparaître avec cette terre. Et chacun de nous, Dieu a préparé quelque chose de spécial, quelque chose qui va dépasser peut-être toute notre imagination. Que quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, votre vécu, Dieu a des plans pour vous, Dieu a une mission pour vous. Et nous ne devons pas passer à côté, sinon c'est dommage. On va le voir un peu plus en détail ce matin. Je voulais vous partager justement, à travers un passage de la parole de Dieu, quelques éléments sur l'appel. On va pas pouvoir, le titre c'est l'appel de Dieu, mais on va pas voir tout ce qui concerne l'appel, simplement quelques éléments en lumière, à travers un passage de la Bible. Donc on va lire dans le livre des Actes, on est en train de lire ensemble avec le groupe de maison, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Alors pour les personnes qui ne seraient pas familières avec la Bible, le livre des Actes, en fait, il raconte comment l'évangile s'est répandu après la résurrection de Jésus. Il raconte comment, grâce à l'action du Saint-Esprit, à travers les apôtres, à travers Pierre, Jean, Matthieu, Paul, l'Église primitive est née. Et dans ce chapitre 9, il est majeur, c'est un chapitre important dans ce livre des Actes, parce qu'il va nous raconter comment un homme qui s'appelle Saul de Tarse, un homme religieux, un homme zélé, un juif, comment cet homme violent qui est contre le christianisme, qui va combattre, qui va persécuter les chrétiens, comment il va rencontrer Jésus. C'est sur le chemin en fait de Damas. Il a reçu un laissez-passer par les autorités religieuses, un mandat pour aller persécuter les chrétiens de Damas en Syrie. Donc c'est à 200 km au nord de Jérusalem. Il va là-bas pour aller faire prisonnier tous les juifs qui sont devenus chrétiens qui se sont cachés en Syrie, suite au martyr d'Étienne. Il y a eu le martyr d'Étienne avant. Donc il va aller les poursuivre là-bas, et sur le chemin de Damas, Jésus va lui apparaître. Jésus va lui apparaître et va lui dire: pourquoi me persécutes-tu? Il va dire: mais qui es-tu? Je suis Jésus, celui qui te persécute, que tu persécutes, pardon. Et Jésus lui ordonne ensuite de se rendre à Damas et d'attendre là qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et comme Paul, suite à cette grande lumière, il est devenu aveugle, il va rester aveugle pendant 3 jours, c'est ses compagnons qui vont l'emmener dans la ville de Damas. Mais ce matin, moi, je ne veux pas vous parler de la conversion de de Saul, hein, c'est pas ça qui m'intéresse ce matin. Je vais vous parler de la suite, en fait, après, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un chrétien qui a reçu un appel particulier. Donc on va lire dans Acte 9, versets 10 à 20. Alors, pardon. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Alors quand on pense au personnage du Nouveau Testament, hormis Jésus, on va souvent citer Pierre, Matthieu, tous les apôtres, Paul. Mais le nom d'Ananias ne va pas revenir souvent, en fait. Et en plus, quand on parle d'Ananias, il faut savoir duquel on parle. Parce qu'il y a trois Ananias dans le Nouveau Testament. Il y en a deux, ce n'est pas terrible. Et il y a le Ananias de Damas. Donc encore, en plus, il a le risque d'être confondu avec les deux autres. Hein, il y a le Ananias, le mari de Saphira, vous savez, qui ont dit qu'il avait donné telle somme, ils ont menti. Voilà ce qui leur arrive après. Ils sont tombés morts parce qu'ils ont menti face au Saint-Esprit. Ils ont voulu cacher leur péché. Il y a aussi le Ananias, le souverain sacrificateur, un homme qui va être autoritaire, violent et qui va s'opposer à Paul. Et il y a le Ananias de Damas, celui dont on va parler ce matin. On le trouve uniquement dans ce chapitre. Il n'apparaît que dans une dizaine de versets. Alors, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait simplement qu'il habitait à Damas, qu'il était disciple de Jésus et qu'il faisait probablement partie des chrétiens qui ont été persécutés à Jérusalem et donc qui a migré vers Damas, en Syrie. Mais, vous savez, dans la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu prend soin de mentionner quelque chose dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a toujours quelque chose à tirer pour nous. Parce que toute écriture nous est donnée pour notre édification, notre encouragement, pour nous reprendre. Et là, dans ces quelques versets, dans l'attitude d'Ananias, j'aimerais qu'on tire quelques enseignements pour nous-mêmes. Premièrement, le premier point qui m'a touché, moi, où Dieu m'a parlé, c'est que Dieu, nous sommes connus de Dieu et appelés personnellement. Comment Dieu nous appelle ? Alors là, on voit dans ce passage que Ananias a été appelé dans une vision. D'accord ? Dieu peut nous appeler de différentes manières, à travers quelqu'un d'autre, à travers une vision, à travers une parole qu'on reçoit. Ce n'est pas là-dessus que je veux m'étaler ce matin. Comment Dieu va appeler Ananias ? C'est par son nom. Tout simplement. Alors ça paraît bête, hein, c'est pas un concept théologique très compliqué, c'est même très simple, mais en fait c'est profondément révélateur du cœur de Dieu. Dieu nous appelle par notre nom. Dans la Bible, Dieu appelle Abraham, Jacob, Moïse, Samuel, toujours par leur nom. Cela peut sembler un petit peu anodin, mais c'est une manière pour Dieu de nous dire « Tu comptes pour moi, je te vois, tu n'es pas quelqu'un parmi d'autres, je te connais personnellement. » Dieu ne fonctionne pas comme l'administration avec un code. Tu n'es pas un numéro pour Dieu. Tu n'es pas perdu dans la foule. Il ne t'identifie pas par ton statut, par tes richesses, par tes capacités, par ce que tu as vécu. Non, il te connaît pour qui tu es. Il t'appelle par ton nom. Tu n'es pas perdu dans la foule. Tu es unique à ses yeux. Je me souviens, un petit témoignage, je me souviens, lorsque j'étais au collège, certains profs ne connaissaient toujours pas mon nom au bout de 6 mois. Alors c'est vrai que bon, j'étais pas un élève super brillant, j'étais pas un élève non plus mauvais, j'étais dans la moyenne. Les profs m'appelaient, oui, le grand avec des lunettes ou celui à côté de Nicolas. J'étais pas populaire. Comme on dit maintenant, les jeunes, c'était un no-name, un random. Et vraiment, les jeunes, n'appelez pas vos camarades comme ça, c'est très dévalorisant. Dieu ne nous appelle pas comme ça. Hein ? Donc on évite ce genre de vocabulaire avec les gens. Donc voilà. Et je me disais, mais comment il va me mettre une appréciation s'il ne connaît même pas mon nom, quoi ? C'est quand même... Enfin, j'en veux pas aux profs, parce que des fois, ils ont 60 élèves à gérer, c'est pas... Mais quand même, je dis, hein, vous avez peut-être déjà vécu ça, mais j'ai une bonne nouvelle. Même si les gens oublient ton nom régulièrement, Dieu, lui, n'oubliera jamais ton nom. Tu es sur son cœur. Et il t'appelle par ton nom. Dieu dit dans Ésaïe 43:1, je t'appelle par mon nom, par ton nom, pardon, tu es à moi. L'homme, il a une mémoire limitée, vous savez. On retient quoi ? 150, 250 noms. Mais Dieu connaît le nom de chaque personne existant sur cette terre, qui est passée ou qui passera sur cette terre. C'est encore une preuve de l'immensité de son cœur. Il y a assez de place dans son cœur, largement assez de place dans son cœur pour chacun de nous. Et finalement, je pense qu'il vaut mieux être connu de Dieu que célébré auprès des hommes. Vous savez, la popularité auprès des hommes, ça dure un moment, hein. Et puis ça peut tomber tout d'un coup. On le voit tous les jours. Il vaut mieux être connu de Dieu. Si Dieu t'appelle par ton nom, c'est parce que, aussi, l'appel qu'il a pour toi, il te l'adresse personnellement. Il est adapté à toi. Il est adapté à tes capacités. Il est adapté à ta situation actuelle. Il est adapté à ton âge. Ce que Dieu a prévu pour toi, les œuvres qu'il a prévues pour toi, elles sont juste à ta taille. Vous savez, on chantait une chanson pour les enfants, ça s'appelait « Un plan juste à ma taille ». Et c'est ça. Dieu ne va pas te demander quelque chose que tu ne pourrais pas atteindre. C'est pour toi. C'est spécifiquement pour toi. Il l'a préparé avant même que tu sois sur cette terre. Il avait tout préparé. Dieu ne nous appelle jamais au hasard. Il ne nous lance pas dans une mission impossible pour ensuite nous abandonner. Non, ce n'est pas Dieu, ça. Pardon. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. S'il te donne une œuvre à accomplir, c'est qu'il a déjà tout préparé pour que tu puisses la réaliser avec lui. C'est Dieu te donne quelque chose à faire, c'est déjà gagné. Il faut rentrer dedans. Simplement. Jésus l'a déjà accompli pour toi. Mais, voilà, comme on voit avec Ananias, quelle est sa première réaction, Ananias, quand Dieu lui parle de Saul ? Eh bien, il a quand même des doutes, Ananias. Il y a sûrement son rythme cardiaque qui a dû accélérer. Oh, Saul de Tarse, peut-être qu'il a connu des amis, des personnes qui ont été persécutées par lui. Et il dit, mais tu m'envoies vers lui ? Et c'est normal, vous savez, d'avoir des doutes. Et quand on regarde Ananias, il n'hésite pas à dire à Dieu, ce qui lui fait peur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne le reprend pas. Dieu ne l'humilie pas. Mais Dieu va le rassurer. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc, quand l'appel est là, quand Dieu nous demande quelque chose, n'ayons pas peur de lui confier nos craintes et nos peurs. La peur d'Ananias, elle était légitime. Alors vraiment, les super spies vont dire « Ah ouais, mais c'est Dieu qui lui a parlé, il n'aurait jamais dû dire ça. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ce qu'il aime, ce n'est pas des supermans. Hein. Dieu, ce qu'il aime, c'est des gens sincères, des gens qui vont vider leur cœur. Et si nous voulons pouvoir rentrer dans la mission de Dieu, il faut déjà se débarrasser de ça pour que Dieu puisse nous rassurer, pour que Dieu puisse nous encourager. Et qu'est-ce que va faire Dieu ? Dieu va même partager ses intentions, il dévoile ses plans à Ananias. Il n'était pas obligé de lui dire ça, mais il va lui dévoiler ce qu'il va faire avec Paul. Quand Dieu nous missionne, il nous demande quelque chose, nous pouvons nous sentir parfois dépassés. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même mieux que se sentir trop sûr de soi. Parce que quand on est trop sûr de soi, hein, qui fait le malin tombe dans le ravin, eh ben on peut tomber. Par contre, quand on commence, voilà, on se dit, voilà, ben, qu'est-ce que ça va nous pousser à faire ? À aller vers Dieu, à chercher nos forces en lui, à nous attendre à lui, à l'écouter, à recevoir de lui. Donc ce n'est pas une mauvaise chose de douter si on confie nos doutes à Dieu, si on vide nos cœurs devant lui. Nous pouvons être sincères avec notre Père et lui confier nos doutes, nos peurs. Il saura comment nous rassurer. Je me souviens en 2007, ça fait longtemps, certains n'étaient pas nés. En 2007, ça faisait 3 ans que je venais d'être chrétien. Et voilà, il y a eu des situations qui ont fait que les pasteurs m'ont demandé de reprendre le groupe de maison. Moi, c'est quelque chose au fond de mon cœur, je savais, je me préparais à ça, à voilà, avoir un groupe de maison, c'est quelque chose que Dieu avait déposé dans mon cœur. Mais là, je dis au Seigneur, non, je ne suis pas prêt, non, ce n'est pas le moment, je ne connais pas encore assez de choses, non. Et vraiment, le fait d'avoir pu le dire à Dieu, c'est lui qui m'a rassuré. C'est lui qui m'a dit, je serai avec toi, ne t'inquiète pas. Tu es entouré, tu n'es pas seul, tu as tes frères et sœurs. Et j'ai pu rentrer dans ce que Dieu avait prévu. Hein, donc, n'hésitez pas. Confiez votre cœur à Dieu quand il vous appelle à une mission, à faire quelque chose. Quand Dieu nous appelle par notre nom, ce n'est pas juste pour capter notre attention, c'est pour nous rappeler que nous sommes connus, aimés, choisis et envoyés. Personnellement. Hein. Et même si la mission te semble trop grande, nous avons le droit d'en parler avec lui. Il saura toujours nous écouter. Voilà, je vous mets un petit peu. Son appel donc, est sur mesure et le doute fait partie du chemin. N'essayons pas de jouer les super... voilà, on tombe quand on se fait ça. Soyons sincères avec Dieu. Dieu attend simplement des cœurs sincères. Osons lui confier nos peurs, nos craintes, et il saura prendre soin de nous et nous encourager. Ensuite, le deuxième point pour moi qui ressort de ce Ananias, ben c'est le premier mot qui lui est attribué en fait dans le tout premier verset qu'on a lu. L'importance du cœur. Le premier mot qui est associé à Ananias, c'est quoi ? C'est le mot « disciple ». Un disciple qui vivait à Damas, Ananias. Alors, un disciple, il aurait pu l'appeler chrétien, il aurait pu l'appeler croyant, il aurait pu l'appeler fidèle. Là, vous savez, quand le Saint-Esprit choisit un mot dans sa parole, ce n'est pas pour rien. Un disciple, c'est un mot fort. Le mot « disciple », il est chargé de sens. Il implique que la personne ne veut plus vivre pour elle-même, pour ses propres désirs. Mais elle veut vivre pour son maître. Elle veut honorer son maître. Elle veut ressembler à son maître. Un disciple, il suit l'enseignement de Jésus et il désire le mettre en pratique. Le disciple, encore une fois, n'est pas quelqu'un de parfait. mais c'est quelqu'un dont le cœur est attaché à Dieu. Non pas pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et Ananias avait ce cœur-là. Pas ma volonté, ta volonté, Seigneur. Dieu aurait pu amener quelqu'un, Pierre, Matthieu, n'importe quel apôtre pour prier pour Paul. Non, il a choisi Ananias qui était sur place parce que lui était un disciple. Et il savait qu'il pouvait lui confier cette mission. Et nous voyons donc dans les attitudes, dans les paroles, et dans les paroles que Ananias ne dit pas aussi, qu'il était réellement un disciple. Et que Dieu pouvait lui confier cette mission. Il fallait en fait qu'Ananias soit préparé, qu'il ait ce cœur-là. Alors au début, on voit effectivement qu'il a eu des doutes. Mais quand Dieu lui a révélé son projet pour Paul, il a dit, Dieu, voilà, j'ai choisi Paul, il sera un instrument, il ira prêcher devant les nations, devant les juifs, il ira prêcher devant tout le monde. Eh bien, Ananias ne s'est pas offusqué. Il n'a pas dit, mais c'est pas juste. Lui, là, qui a persécuté les chrétiens, tu vas le choisir lui et pas moi. Ananias n'a pas montré de jalousie. Il n'a pas dit, pourquoi pas moi ? Moi, je veux aller prêcher. Peut-être que dans son cœur, Ananias, s'il avait dans son cœur depuis longtemps, moi, j'aimerais être appelé de Dieu, j'aimerais prêcher comme les apôtres. Il n'a pas cherché ça, Ananias. Il a écouté le plan de Dieu. Il n'a pas non plus dit à Dieu, mais pourquoi t'as choisi lui ? Pourquoi lui qui nous persécute ? Il n'a pas piqué une crise de jalousie vis-à-vis de Saul. Il n'a pas cherché ce que lui pouvait obtenir en obéissant à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, ouais, si je le fais, alors moi, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que tu vas me donner ? C'est ça le cœur de disciple. L'obéissance. Il a obéi simplement. Le cœur du disciple, le cœur de Jésus qui est venu. Voilà, c'est vraiment, on voit qu'il ressemble à Jésus, veut ressembler à Jésus. Le cœur de Jésus qui est venu pour donner sa vie en rançon et non pour être servi. Ananias, là, il est en train de prendre modèle sur Jésus. Pas moi d'abord, l'autre d'abord, comme Jésus a fait pour nous. Pas lui d'abord, mais les autres d'abord. Et dans Actes 9, 17, on voit Ananias sorti, donc il obéit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, là aussi les mots ont leur importance, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, waouh !» Il est en train d'appeler le gars qui persécutait tout le monde, son frère. Et ce n'est pas un petit mot à l'époque. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui, « Ouais, frère !» Mon frère, il n'a plus trop de valeur aujourd'hui. Là, quand vous savez, quand les gens de l'époque et quand la Bible parle, les mots ont un poids. Et Ananias, avec ce cœur de disciple, va venir vers Saul, cet homme violent, cet homme qui a détruit des familles, et va l'appeler mon frère. Amen. Ananias va prier pour lui de façon très simple. Il ne va pas ameuter tout le monde autour de lui. Il va prier, il va faire une simple prière et il va retourner chez lui, à sa vie chrétienne, dans l'anonymat, sans chercher à retirer une quelconque gloire de ce qui vient de se passer. L'appel de Dieu n'est jamais orienté sur nous-mêmes pour valoriser notre ego. L'appel de Dieu, il n'est pas là pour nous mettre en avant. Pour dire, regardez, c'est moi. Le service de Dieu n'est pas là pour nous donner une place valorisante, comme pour rattraper ce qu'on n'a pas pu faire dans notre vie d'avant. Ouais, j'ai pas réussi à faire ça dans ma vie, mais dans l'église, je ferai ça, puis ils verront bien qui je suis. C'est pas ça le peuple de Dieu. C'est pas ça. Dieu demande des cœurs humbles. Et l'appel de Dieu, c'est quelque chose de précieux et quelque chose en même temps qu'il faut chérir dans l'humilité. Parce que le diable va essayer de nous croquer par l'orgueil. L'appel peut causer notre chute. Jésus n'a jamais prêché l'épanouissement personnel, une vie orientée vers ses propres désirs. Vous voyez, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Fais ce qui te plaît, c'est ça l'important. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, tu n'as qu'une vie. Vous savez, comme du temps de Noé, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Alors allons-y, profitons, faisons ce que nous voulons. C'est ça qui est bon. Jésus, il n'a jamais prêché ça. Hein. Ce n'est pas ça que Jésus demande. Jésus, il a dit, dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est bien là qu'est la vie en abondance. On croit humainement que voilà, faire telle ou telle chose, ça me fait du bien sur le coup, effectivement, ça peut procurer un plaisir, mais ça ne me nourrit pas. Ça nourrit pas mon âme. Le pain de mon âme, c'est faire la volonté de Dieu. C'est quand je suis dans la volonté de Dieu que mon âme est nourrie, que mon âme est édifiée, parce que c'est ce don à quoi je suis appelé de toute éternité, faire la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu a prévu. Et sa volonté, elle est bonne, elle est parfaite. Et quand je l'accomplis, je me sens bien. Parce que je suis dans ce que Dieu a prévu. Vous savez, les péchés, tout ça, le monde, toute cette attirance vers le monde, c'est comme les bonbons. C'est bon sur le coup. Après, ça fait des caries. Il y a des impacts. La volonté de Dieu, elle n'aura pas d'impact mauvais dans notre vie. Elle va toujours apporter du bon. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'appel de Dieu est toujours orienté vers Dieu et vers les autres. Ananias, il a été appelé pour qu'un autre puisse entrer dans son ministère. Il n'a pas été appelé pour lui-même. C'est ça l'appel de Dieu. C'est là où on peut discerner. Mais j'ai ça à cœur, j'ai l'impression d'avoir cet appel, mais quelle est ma motivation profonde? Est-ce que c'est pour que les gens me voient? Est-ce que c'est pour être reconnu? Ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour servir mon prochain? Ça, c'est un bon baromètre pour savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc Ananias, lui, a été simplement appelé à déclencher dans la vie de Paul cet appel, ce ministère. Nous devons, dans nos vies aussi, cultiver ce même cœur dans la présence de Dieu. Pour que notre désir soit d'abord que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de notre prochain. C'est ça l'Église. C'est des gens qui se bénissent mutuellement. Moi, je souhaite que vous alliez plus loin que moi. C'est ça. On s'oublie. Dieu nous appelle à nous oublier pour pouvoir donner. Comme Jésus l'a fait. Bien souvent, nos prières sont uniquement orientées sur nos besoins ou même sur notre propre appel. Vous savez, j'ai déjà vu des personnes, elles sont omnibilées par leur appel. Oh, si je loupe mon appel, il y a cette peur de dire je vais passer à côté des choses de Dieu. Non, mène une vie de disciple, sers, donne, aime, et tout va arriver naturellement. Laisse-toi travailler. Ayons confiance que Dieu s'occupe de nous et que si Dieu a mis un appel sur notre vie, eh ben, ni le diable ni les hommes ne pourront l'empêcher. Tôt ou tard, qui pourrait s'opposer à Dieu? Personne. Attendons. Parfois, on reçoit un appel clair de Dieu, mais les choses ne se mettent pas en place tout de suite. Et on peut ressentir une sorte de frustration. On peut se dire, on veut me bloquer. Les pasteurs veulent pas. Ou voilà, c'est l'ennemi, il m'empêche et tout ça, et nana. Et alors, on essaie de forcer les portes, d'aller trop vite, de tout prendre en main par soi-même. C'est pas Dieu qui nous positionne, c'est nous, on va dire, on va forcer la chose. Et c'est très dangereux, en fait. Car vous savez, ces temps d'attente, ces temps de préparation sont très importants. Dieu voulait d'abord nous façonner avant de nous envoyer. Et beaucoup sont tombés, non parce qu'ils n'avaient pas d'appel, ils n'étaient pas appelés, mais parce qu'ils ont refusé de prendre le temps de la préparation. Ils ont refusé de laisser leur cœur être touché. Vous savez, entrer dans, dans le ministère ou dans un appel de Dieu, c'est quelque chose où il faut être préparé, parce que le diable va vouloir, par toutes sortes de choses, nous avoir par l'orgueil notamment, le fait d'être là devant des personnes. Bah oui, effectivement, ça peut susciter un orgueil. Et Dieu doit déjà toucher ça dans les cœurs. Et si on se lance comme ça, ah là, il ne va pas nous louper, hein. Et souvent, on envie les ministères très reconnus, mais on ne sait pas par quel brisement ils sont passés avant. On ne sait pas par où ils ont dû passer avant pour que Dieu les positionne comme ça dans un ministère public, un ministère où voilà, ils auront une grande audience. Vous savez, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et parfois, il vaut mieux être dans l'ombre, tranquillement, prier. Oui, n'enviez pas. Mais si Dieu vous appelle, hein. C'est une bonne chose aussi, amen, je ne veux pas vous décourager. Mais soyons vraiment clairs avec ces choses-là. Le peuple de Dieu n'est pas là pour se montrer, il est là pour amener la parole de Dieu, pour bénir, pour donner. Et l'appel de Dieu aussi, le risque, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent être obnubilées, avoir peur de passer. Et puis une fois qu'elles sont rentrées dedans, eh bien l'appel prend presque la place de Dieu. Et le jour où Dieu décide que ça s'arrête, elles sont perdues. L'appel ne doit pas prendre la place de Dieu. La première chose qui fait notre valeur, qui fait qui nous sommes, c'est Dieu, ce n'est pas notre appel. Vous savez, dans ce monde, les gens, il y a des gens qui partent en retraite, et ils se retrouvent complètement déboussolés parce que leur métier, c'était leur vie, en fait. Et dans le peuple de Dieu, ça ne doit pas être ça. Notre vie, c'est Christ. C'est ma relation d'abord avec lui. Ensuite, que Dieu me demande, voilà, aujourd'hui de prêcher, demain d'aller désherber, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a prévu pour moi. Mais tant qu'on est dans la volonté de Dieu, c'est ça le plus important, c'est de faire sa volonté. L'appel en lui-même, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi, c'est lui qui décide. Donc, laissons-le faire dans nos vies. Laissons Dieu vraiment nous mettre à la bonne position, au bon moment. Et s'il y a un temps de préparation, acceptons-le. Servons simplement, aimons, prions, demandons ce cœur de disciple. Et quand je préparais ce message, j'avais l'image... Pardon, bon, je n'ai pas affiché le reste. Donc, je résume un petit peu. L'appel de Dieu sert toujours un dessein plus grand, hein, plus grand que notre propre personne, bien sûr. Ananias a été appelé pour que Saul entre dans son appel. Dieu agit à travers nous pour bénir les autres, pas pour nous mettre en avant. Un appel, ça se prépare. Dieu ne t'appelle pas pour t'envoyer tout de suite sans t'avoir préparé. Hein, c'est dangereux. Voilà. Donc, l'image que j'avais eue, c'est l'image du puzzle. Vous avez tous fait des puzzles, peut-être, quand vous étiez petits ou encore maintenant. Et dans un puzzle, vous savez, plus les pièces sont assemblées, plus on commence à distinguer l'image. Et l'Église de Jésus-Christ, elle est destinée à refléter Christ. Et plus les chrétiens vont prendre leur place, plus le monde va voir Christ dans l'Église. Plus chacun sera à sa place, plus nous pourrons refléter Christ, plus nous serons unis les uns aux autres dans ce que Dieu nous a demandé, plus le monde verra Christ en nous. Et puis dans un puzzle, chaque pièce, elle doit être à sa place. Hein ? Si on essaye de prendre une pièce et de la mettre à la mauvaise place, de forcer, qu'est-ce qui va se passer ? Premièrement, on va abîmer la pièce. Deuxièmement, on va abîmer les pièces qui sont autour. Et troisièmement, bah, l'image, ça ne sera pas belle, ça ne sera pas la vraie image. Donc, on ne doit pas s'imposer. On ne doit pas s'imposer, mais laisser l'Esprit de Dieu et lui faire confiance. Seigneur, quelle est ma place aujourd'hui ? Où est-ce que tu m'appelles ? Je laisse mes rêves à moi et je veux ta volonté, parce que c'est elle qui est bonne. Et puis, dans un puzzle... Vous savez, toutes les pièces sont importantes. La pièce en haut à droite, elle est aussi importante que la pièce du milieu. Toutes les pièces ont leur place et sont importantes. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de service, de ministère plus ou moins important. Nous, le corps pastoral dans cette église, on est au milieu de vous. On n'est pas au-dessus de vous, on est là pour vous servir. Et chaque pièce a la même valeur aux yeux de Dieu. Chaque personne a son importance. Est-ce que Ananias était plus important que Paul ? Non, dans ce texte qu'on a lu, ils avaient chacun leur part à faire. Donc ce n'est pas parce qu'on a un ministère peut-être plus visible qu'on est plus important aux yeux de Dieu que la personne qui va prier le soir dans l'anonymat pour les autres. Non, ce n'est pas ça. Dieu cherche des cœurs simples, des cœurs qu'il a préparés pour des œuvres, quelles qu'elles soient. Et ça me rappelle aussi, vous savez, il y a beaucoup de témoignages de ce type-là, en fait, des personnes. On voit des grands hommes de Dieu. Par exemple, je pense à David Yong-Gi-Chau, c'est un pasteur coréen. Il avait une église de 800 000 personnes, alors c'est lui qu'on voit. Mais comment il est venu à Christ, cet homme-là ? C'est parce qu'une jeune fille lui a parlé à l'hôpital. La jeune fille, personne ne s'en souvient. On ne connaît pas son nom, mais Dieu, lui, il sait. C'est ça qui est important. Cette jeune fille, elle a écouté. Et voilà, David Yong-Gi-Chau a pu entrer dans son ministère. On a tous notre rôle à jouer. On a tous une place à jouer dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous pouvons parfois être découragés et se dire, ben voilà, moi j'ai jamais rien fait de bon dans ma vie. On m'a toujours traité comme un moi que rien, un incapable. Ça, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, tu as ta place et tu as ton rôle à jouer. Et tu as des capacités que je n'ai pas et tu as des choses à apporter que je ne peux pas apporter. Donc, chacun est appelé à prendre sa place. Nous pouvons être parfois dans ce monde impressionnés de ce que certains ont accompli sur cette terre, mais ce que Dieu a prévu pour nous est bien plus grand que tout ce que les cathédrales qu'on a pu construire, toutes les grandes choses que l'homme a pu faire sur cette terre. Vous savez, tout ce qui a été fait sur cette terre un jour, ça va être plié en deux et ça va être fini. Par contre, les choses auxquelles Dieu nous appelle, ce sont des choses qui auront des impacts jusque dans l'éternité. Jésus a dit, amassez-vous un trésor dans le ciel, là où la rouille, la teigne et les voleurs ne peuvent pas l'atteindre. Nous avons le choix aujourd'hui de dire à quoi sert ma vie ? Est-ce que je veux travailler pour les choses de cette terre ? C'est vrai, il faut le faire, il faut avoir un travail, gagner un peu d'argent. Mais est-ce que je veux pas plutôt rentrer aussi dans ce que Dieu a spécifiquement préparé pour moi de toute éternité ? Quel est mon rôle, Seigneur, sur cette terre ? Alors, certains aussi sont peut-être en attente dans leur vie. Certains peut-être se disent, moi je suis là, je suis chrétien depuis longues années, puis rien ne bouge. Non, continue. Apporte ce que tu as apporté. Vous savez, l'appel va se déclencher quand on est en action, en fait. Mais dans des actions très simples. Des fois, on attend des choses. Un bonjour à quelqu'un, un encouragement, une prière. Pour quelqu'un, encourager, bénir, aider dans son groupe de maison, mais des choses. Et c'est en se mettant en marche comme ça que d'abord notre cœur va être travaillé et que Dieu va pouvoir nous donner la suite. Donc, ne minimisons pas les petits commencements. Tu as ta place, prends ta place, là où tu peux servir, sers et continue d'avancer. Simplement, n'aie pas peur. N'aie pas peur de passer à côté de ce que Dieu te demande. Vous savez, Dieu, quand il veut parler, il parlera. Regardez Paul, il l'a arrêté, il l'a fait descendre et hop. Quand ça sera le moment, il va te le dire, d'une manière ou d'une autre. En attendant, ne sois pas frustré. Aime, 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 aime. Et Dieu va faire la suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'appel. Je n'ai pas tout traité. Merci Seigneur. On va simplement prier. On va se lever, puis on va prendre un temps de prière, se mettre devant Dieu. Seigneur Tout-Puissant, te remercions parce que nous ne sommes pas là par hasard. Te remercions, Seigneur, parce que nous ne sommes pas là allant de droite à gauche, suivant la chance, suivant la malchance. Non, Seigneur, tu nous as mis dans ta main et nous sommes à l'abri. Nous sommes cachés en toi, Seigneur, et tu as prévu des choses pour chacun de nous. Je te prie ce matin, Seigneur, de sonder nos reins, de sonder nos cœurs, pour nous préparer à la suite, pour nous préparer chacun de nous à rentrer dans cet appel que tu as prévu, Seigneur, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas de petit service. Tout ce qu'on fait pour toi, Seigneur, est glorieux et a du poids et a de la valeur. Et je te prie ce matin, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans tes plans, Seigneur. Je te prie pour que tu nous donnes cette soif de te servir, cette soif de servir notre prochain. Que tu nous débarrasses de notre ego, Seigneur. Tu nous débarrasses de tout ce qui voudrait nous ramener à nous-mêmes. Seigneur, que nous puissions mourir à nous-mêmes et vivre pour toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, encore toute cette semaine de toucher nos cœurs et de nous donner des rêves, comme a dit Johanna. Tu peux nous parler. Tu peux nous donner ces rêves, Seigneur, dans nos cœurs et nous préparer pour la suite. Amen.